Merci à tous et toutes d'être là. Alors, je ne suis pas tellement sûre de savoir quel est le sujet de ma présentation, ce qui est en soi un indice que ça se présente plutôt pas mal, à mon sens. J'en ai un peu marre de la forme universitaire de la présentation et tout ce qu'elle contient et tout ce à quoi elle nous force. Donc ça va être un peu l'horizon de ma présentation aujourd'hui. Je vais essayer d'être claire et de ne pas jargonner. Ça aussi, ça m'énerve de plus en plus. Donc limite, interrompez-moi en fait s'il y a un moment où vous ne comprenez plus rien. Voilà, je le prendrai pas mal. Alors je vais juste expliquer des choses que j'espère assez simples. À commencer par ma présence ici. Alors, je suis ici parce que j'ai participé à l'exposition ayant été approchée par Bianca et Sylvain, qui sont pas loin, avec l'idée d'écrire un article et de faire un article qui soit un élément de l'exposition. Donc, peut-être si vous avez déjà vu l'exposition, c'est l'article qui se trouve là-bas, derrière le panneau. Il est entre guillemets exposé sur une stèle. Donc vous avez des petites piles et vous avez le texte qui d'ailleurs a été magnifiquement mis en page par Bianca et Sylvain. Moi j'ai rien fait, voilà, je fais du graphisme. Ah, et par Yasmine, autant pour moi, pardon. Oui, en plus on s'est parlé. Mais voilà, je fais un peu de graphisme, mais sur ce coup-là j'ai pas de mérite. Et donc c'est un texte qui globalement parle d'un truc qui est le blob. Mais je ne vais pas trop parler de ça, en fait, parce que le texte existe, donc du coup, bah, lisez-le. Et l'idée, c'est plutôt de parler de ce qui se passe dans l'expo et de pourquoi ce texte a été écrit et, au fond, la suite de ça, quoi. Une expérience qui a été super, c'était samedi soir, donc quand il y a eu le vernissage, donc le texte était exposé là-bas, et les gens se servaient librement sur la stèle pour prendre le texte. Et ça a été une super expérience pour moi. Parce que moi, je suis chercheur, donc en fait, j'écris des articles dans des revues spécialisées que personne ne lit. Et enfin, voilà, ou sauf d'autres chercheurs, mais enfin, avec des diffusions minimales, avec des visions graphiques pas toujours évidentes. Alors, en faisant ça, je crache pas sur mon métier, quoi. C'est juste une réalité que l'article de recherche, c'est juste pas le truc le plus lu au monde. Et quand on en a écrit un, deux ou trois, se pose quand même la question de pourquoi ce système est... pourquoi on écrit des choses qui ne se lisent pas. Et du coup, j'ai eu une émotion quand même assez forte, je dois le dire, parce que c'était chouette de voir les gens qui prenaient le texte. Bon, après, est-ce qu'ils vont le lire ou pas? Mais voilà, cette forme-là, du coup, me semble plus accessible que la revue de recherche. Du coup, ça a fait un peu un déclic. Alors, je ne sais pas du tout à quel point vous êtes familière ou pas de ce qu'on se dit en ce moment dans le milieu de la recherche sur ces questions, mais c'est des gros enjeux, quoi. Voilà. En gros, il y a toutes ces histoires qui entourent ce qu'on appelle l'open access, donc l'idée que la connaissance soit disponible, au lieu d'être sur des sites type Elsevier, JSTOR ou autres, qui sont des, pour aller vite, des entreprises qui privatisent notre connaissance et qui compliquent l'accès à ces articles. Donc la raison pour laquelle personne ne lit ces articles, c'est pas juste qu'ils sont ennuyeux, c'est aussi qu'ils sont privatisés et leur accès est compliqué. Et il y a des gens qui travaillent en ce moment à rendre la recherche accessible. Et il y a plein de gens qui font ça très très bien, parce qu'un autre enjeu de la recherche, c'est de trouver sa voix, de trouver des choses à raconter qui rendent compte de cette recherche. Et souvent, quand moi je dis oui, j'ai envie qu'on me lise plus, enfin c'est même pas une question de vanité, mais c'est une question de rendre disponible des savoirs, les gens vont vous dire oui, écris un blog, tweet, voilà. Donc après, ça c'est aussi des formes que les chercheurs commencent à adopter. Je vais en citer quelques-uns. Bon, bah, il y a Olivier Hertzscheid qui est assez intéressant. Là, je vous passe juste un petit exemple. Pourquoi je ne publierai plus jamais dans des revues scientifiques. Voilà. C'est juste un article assez long qui, en gros, explique en détail un peu ce que je viens de vous dire et cette frustration de chercheur, quoi, de lire des choses qui ne sont pas diffusées. Et puis, il y a, bon, bah, je vais parler d'Anthony Mazur parce qu'on travaille pas mal ensemble, mais il rend beaucoup de ses textes accessibles sur son site web. Et puis à l'étranger, moi je suis par exemple le blog de Sarah Ahmed, qui est une philosophe australienne. Bon voilà, c'est des gens qui en fait se disent on va peut-être écrire moins de livres, plus de posts, de notes de blog. Voilà, ça donne d'autres choses. Et du coup, ça m'a, en voyant ce qui s'est passé samedi, je me suis dit voilà, c'est intéressant. Je veux plus écrire des articles, peut-être que je dois écrire d'autres choses et donc peut-être des tracts. Alors je reste chercheur, donc je vous projette une citation très longue que personne ne lira à l'écran, mais l'article est sympa. C'est un article de la revue Vacarme sur le tract « À quoi bon ?», comme quoi on se demande toujours « À quoi bon ?», quelle que soit la forme qu'on adopte. Mais à une époque, j'avais une amie chercheuse, Carole Nozella, pour ne pas la citer, avec qui on s'était posé la question d'écrire des tracts et de les distribuer. Bon, ça ne s'est pas fait, mais c'est une idée, quoi, c'est là et c'est présent. Voilà. Du coup, c'est vraiment mon obsession du moment, comment faire de la recherche, et je ne vais pas dire autrement, parce que ça aussi c'est très à la mode, comment faire telle chose autrement, bon, c'est l'idée quand même, quoi. Donc je vais, en gros, dans cette présentation, je vais un peu danser entre deux trucs, à la fois le contenu du texte, là, du blob, dont on peut parler si vous voulez, en même temps le texte est relativement autosuffisant, et puis surtout le devenir de tout ça, en gros sur quoi ça ouvre, et puis la question, bon, qui est à mon avis un peu celle de quoi matière signe, enfin moi je la comprends comme ça, c'est comment chercher, comment, avec quels moyens, et comment on fait essaimer aussi la recherche comme pratique, quoi. Comment on donne à d'autres gens envie de le faire. Et donc comme je n'ai pas vraiment de sujet pour cette conférence, je vais tenter une approche par le vide, et je vais partir d'une absence, qui est en fait l'absence de table. Parce que quand j'ai commencé à rencontrer Sylvain et Bianca régulièrement pour parler de quoi matière signe, un de leurs projets, enfin je parle à votre place, mais voilà, Bianca me dira si j'ai tort, c'est d'avoir une très grande table avec une curation qui prendrait place sur une très très grande table. Ah oui, alors ça, voilà, je pense que ça vous avez compris. Petit spoiler sur cette histoire d'absence, ça va mener à une obsession en fait. C'est-à-dire que moi j'adore l'idée de la table, je suis entourée aussi de chercheurs dans la fac où je travaille qui adorent aussi cette question-là. Du coup, ça me prend pas mal de temps. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas eu la table, finalement. On en a beaucoup parlé quand Bianca et Sylvain travaillaient, quand moi, je les ai vus. Et puis, finalement, on n'a pas de table. Donc, on a des baraques éditoriales, ce qui est très bien. Mais du coup, on a cette absence de table qui est un peu là, comme une présence qui nous hante un peu tous. Et je vais parler de ça, en fait, de comment la table, c'est une méthodologie de recherche, quand bien même elle n'est pas là. Je ne vais pas dire nouvelle méthodologie de recherche, parce que non, ce n'est pas nouveau, en fait, c'est ancien. Et je n'ai pas envie de faire des trucs nouveaux, en fait. J'ai plutôt envie de prendre des vieilles idées, plutôt que d'innover, puisque c'est à la mode d'innover. Ben non, voilà, faisons des vieux trucs et parlons d'anciens projets ou de projets existants. Donc des tables, recherche d'une table et de comment faire de la recherche avec des tables. Je vais citer un projet d'un collègue designer qui est là, Brice Genre, et puis Annika Pérez qui est aussi un pied dans l'expo, il me semble. Donc ça, c'est une table dont Brice avait parlé dans la conférence Ciné Design, qui est une conférence que Irène Duniac et moi-même avions organisée l'année dernière, et puis il y a eu une publication à cette issue. Et donc Brice Genre avait parlé de cette table qui faisait partie d'une exposition. Alors si j'ai bien compris le projet, parce que malheureusement je n'étais pas à Toulouse et je ne l'ai pas vu à l'époque, c'est une table qui est devenue plein de choses, quoi. Pendant l'expo, c'était un podium, c'était une table de repas, des gradins, une console de radio. Enfin, voilà. J'espère être fidèle à ce que Brice a écrit sur le sujet, avec sa citation qui m'inspire pas mal, quoi. L'idée que sur une table, on fait des scénarios, on écrit des choses qui vont devenir, on invente des histoires. Voilà. On table sur, voilà, c'est pas mal aussi, table comme verbe, ça me parle pas mal. Et puis, du coup, voilà cette idée de la table comme surface de recherche, enfin, surface où on inscrit la recherche, où on crée aussi de la sérendipité, enfin, voilà, ce fameux truc qui se passe sur le web, là, quand des idées convergent ou vous assaillent, quand vous cherchez rien, en fait. Et du coup, cette table-là, qui est vraiment belle, d'ailleurs, ça paraît presque trivial de le dire, mais il faut le dire, a fait écho à une autre table que j'ai découverte la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'avez vu au Théâtre Garonne, ce superbe spectacle de Federico Leone qui s'appelle Las Ideas, et qui repose en fait, à mon avis, sur une question simple, c'est comment les idées viennent et comment on a des idées et comment ces idées-là, elles se réalisent. Et c'est un dispositif très simple avec deux acteurs sur un plateau et une table de ping-pong et du matériel à disposition pour inventer des choses. Il y a un effet comme ça très méta où en fait le spectacle c'est de voir les gens créer les idées du spectacle. Alors c'est un petit peu dur à expliquer, il faut voir le spectacle pour comprendre, mais il y a vraiment un effet de pièce dans la pièce ou la pièce qui rejoue les mécanismes d'invention de la pièce, quoi. Donc on voit vraiment deux types en train de dire tiens, qu'est-ce qu'on va mettre dans la pièce, quoi. Et du coup, le spectacle, c'est ça, c'est de regarder ces deux types, se demander ce qu'il y a dans la pièce. Un peu comme les écrivains qui écrivent sur la page blanche, si vous préférez. Et la table de ping-pong, c'est vraiment chouette, parce que, il se trouve que fonctionnellement, c'est un dispositif qui est repliable. Et du coup, dans la pièce, il y a cette table sur laquelle on met des ordinateurs, on met des claviers, on met des clopes, enfin, il se passe plein de choses. Mais ça permet aussi de relever un pan et de projeter des films dessus, de projeter à un moment donné, la table de ping-pong devient un MacBook qui s'ouvre, donc on voit l'intérieur du Mac, on voit le rêve du Mac, enfin, il se passe des choses. Enfin, c'est vraiment un spectacle absolument exceptionnel. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est une résurgence non seulement de la table, mais en plus d'une table précise, qui est la table de ping-pong. Et du coup, je continue un peu mon petit inventaire des tables de recherche, pour parler de choses qui se passent dans le laboratoire où j'interviens, où Brice Genre aussi d'ailleurs intervient. Enfin, il y a pas mal de gens de ce laboratoire là qui sont un peu disséminés. Donc c'est un laboratoire au Mirail qui s'appelle Elela Creatis. Et donc pour aller vite, là je le dis pour les gens qui connaissent pas du tout l'univers de la recherche, en recherche, quand on est chercheur, on fait des séminaires. Et dans ces séminaires, il y a des étudiants, des autres profs qui viennent, et ça permet de montrer un peu où on en est de la recherche. Et dans le laboratoire où je travaille, il y a eu cette excellente idée de dire on va arrêter de faire des tout petits séminaires où les gens se retrouvent entre eux. On va juste fusionner tous les séminaires et ça fera un grand séminaire où tous les profs de toutes les disciplines se rencontrent. Donc il y en a deux par an. Je vous conseille de venir parce que c'est ouvert et c'est en général assez intéressant. Et donc le séminaire s'appelle Méta et c'est par épisode. Et donc là je vais parler de deux épisodes où j'ai participé, Méta 3. Et pour Méta 3, on avait justement pensé, alors dans le comité d'organisation, avec Brice Genre, Sabine Soulard, Emma Viguier, enfin plein de gens intéressants, Carole Nozella aussi, comment on aménage une salle, parce qu'une salle de cours, il n'y a rien de plus déprimant, enfin, c'est vraiment ce mobilier standard de fac, avec de la moquette sur les murs, enfin bon, en général, c'est vraiment sinistre et ça n'invite pas vraiment à la recherche-création. Et Sabine Soulard, qui est artiste et enseignante, nous a amené l'image de la table de ping-pong, enfin la ping-pong table de Roscoe, avec le jeu de mots sur la mare centrale. Et ça nous ramène cette idée des tables comme produisant des dispositifs. Et déjà à l'époque, je m'étais dit, mais en fait, il faut qu'on ait une vraie table de ping-pong. Bon, c'était un peu compliqué, donc on n'a pas eu ça. Donc à la place, on a créé un petit salon indien, ou même pas indien d'ailleurs, mais je ne sais pas, un petit salon de thé. À l'intérieur d'une salle de cours, on a fait la pénombre, on a essayé de réinventer un peu notre espace. Ça paraît rien, hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont artistes ici et ils se disent, d'accord, ça paraît pas très innovant ou spécial, mais c'est quand même quelque chose de faire ça à la fac. Voilà, il y a des chercheurs qui sont troublés par ça. Voilà. Et du coup, l'idée, c'était aussi de décentrer la parole. Bon, là, on a reproduit un dispositif, vous êtes devant moi et je vous parle, mais il y a d'autres choses qui sont possibles, et en l'occurrence, la formule petit salon et table à thé, ça marchait pas mal. Et puis, il y a un second séminaire donc, qui faisait suite et qui était intéressant aussi sur la question de la table et qui va me relier à la question du blob. Vous allez voir, hein, je n'ai pas l'air, mais je vais en fait retomber sur mes pieds à un moment donné, qui s'appelle Méta 4. Alors, je ne suis pas sûre que vous voyez trop ce qui se passe, mais pareil, on a conçu pour Méta 4 l'idée de faire de la recherche autour de la question de l'encyclopédisme. Voilà. En fait, pour aller vite, la question de ce séminaire devait porter sur le genre. Et il y a des gens qui disaient « Ah, les genres, c'est les genres artistiques, super, génial. » Et il y a d'autres gens dont je faisais partie qui disaient « Ah, mais le genre, gender, quoi. » Voilà. Et on s'est dit « Comme on ne peut pas choisir, on va faire les deux. » Et donc, on va parler de la production de connaissances. Donc, on revient à ça, produire du savoir. Et il y a une équipe design flottante qui s'est constituée pour réfléchir à ces questions. Et assez rapidement, dans cette équipe design que je vais présenter, on a posé la question de comment on fait une encyclopédie et donc comment on produit du savoir. Et on a décidé qu'on allait, petit à petit, l'idée de la table, qui n'était pas là dès le début, s'est imposée. Donc ça, c'était un petit schéma dessiné qui explique le dispositif éditorial qu'on avait mis en place. Bon, ça, une conférence de design sans mur de post-it, ça n'existe pas, donc je vous en montre un. C'est comme ça qu'on a réfléchi, en fait, pour inventer le protocole. Alors, on, de nouveau, Brice Genre, Irène Duniac, Anthony Mazur, Carole Nozella et moi-même. C'est un peu toujours les mêmes joueurs, mais qui recomposent des équipes. Et donc, le jour J, de retour dans la même salle, alors cette fois qui n'était pas avec un petit salon, mais encore une fois, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on fait avec ces tables, quoi. Et comment on agence notre table. Alors là, s'il y a quelque chose d'assez standard avec des tables, des chaises, des gens qui sont assis derrière. Et par contre, l'équipe design qui était installée avec un système d'écran relevé, donc là on retrouve un peu le système de Léon avec le rapport écran-table, une zone verticale sur laquelle on projette et puis une zone horizontale sur laquelle on fait des choses. Voilà. Et cette grande table, alors il ne faut pas, si vous cherchez des esthétiques ici, vous serez peut-être déçus, mais je crois qu'on ne bosse pas là-dessus en fait, on n'est pas là pour faire des choses jolies. L'idée, c'était plutôt d'être dans des conceptions opérationnelles, quoi. Comment on produit une encyclopédie d'une journée ? Et pareil, une journée que très peu de gens verront, qui est peu médiatisée, qui connaît peu de suite. Comment on produit des traces de ce savoir ? Et il y a eu une double équipe. Alors, Irène Dugnac était plutôt au pôle impression. Et il y a eu un petit fascicule qui a été produit, d'ailleurs, une rareté. Je n'ai pas réussi à le retrouver, j'en ai pas de photo. C'est très dommage. Elle est là, peut-être qu'elle en a un dans son sac, je ne sais pas. Et un site web... Voilà, alors on peut naviguer dedans, avec des espèces de saisies d'éléments de savoir, comme ça, c'est-à-dire que pendant la journée, des mots ou des notions surgissaient, et l'équipe éditoriale les captait, et en même temps se déroulait une session de live coding pour produire le site. Voilà. Donc autour de cette table, il y avait une somme de tâches associées, des gens qui écoutaient, des gens qui produisaient des images, des gens qui codaient, des gens qui faisaient de l'impression et du InDesign, enfin voilà, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Et en fait, c'est une encyclopédie, alors voilà, bon... tout à fait en cours, mais avec des tas de contenus. C'est accessible en ligne, d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Il y a pas mal de contenus voilà, qui sont accessibles. Du coup, oui, je vous montre. Alors, je continue mon inventaire des tables. Je ne sais pas si je fais trop long. Non, je parle depuis longtemps, je ne sais pas. Bon, continuons. Ça, c'est ma table, c'est chez moi, voilà. Et j'en parle parce que c'est une table sur laquelle je mange et je travaille. Donc pareil, c'est des choses qui sont importantes aussi, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire sur une table et comment ces tables-là, elles deviennent espaces de recherche. Investir les tables, designer des tables pour faire de la recherche. Je vous montre aussi ça parce que dans la table à manger, il y a la notion de table de cuisine qui est aussi hyper importante. Et voilà, ça dépend aussi de vos histoires. Moi, par exemple, enfant, je faisais mes devoirs sur la table de cuisine. Donc, il y a aussi un imaginaire qui est fort à cet endroit-là. Et puis, par ailleurs, moi, je fais des recherches sur, on va dire, un design queer. Donc, un design qui transgresse les normes de genre, pour aller vite. Et donc, dans ce projet-là, la table de cuisine est une question importante. Donc, la table de cuisine est aussi une table de recherche. Voilà, donc, je vous montre un petit aperçu au cinéma avec Jeanne Dillman. Là aussi, c'est table de recherche ou table comme espace de production. Question de la table qu'on retrouve en recherche de nouveau avec les deux chercheuses que je cite ici, avec ce qu'elles appellent la réflexivité de table de cuisine. Voilà. On décale les espaces, on réfléchit à des choses autour de la table. Et puis on pourrait même, là, dans mon inventaire, ajouter l'idée de table ronde, même si là, bon, c'est un dispositif un peu frontal, mais c'est aussi une forme de la recherche. Peut-être que nos tables rondes devraient être plus rondes d'ailleurs. Voilà. Et puis, derrière l'idée de table, il y a aussi l'idée de tableau, donc la tabulation, hein, c'est l'idée de la grille, c'est l'idée de formaliser les savoirs, et c'est là que je retombe là-dessus, en fait, sur ce texte sur le blob. Parce que quand Sylvain et Bianca m'ont approché, il y avait cette idée de la place de la recherche dans une expo. Et tout de suite, quand ils m'ont parlé de leur grande table sur laquelle il devait y avoir une curation, il y avait cette idée de, voilà, encore une fois, on produit des savoirs, des formes de savoir, et on tend à une forme d'exhaustivité. Voilà. Et du coup, je montre le site qu'ils ont réalisé, parce qu'en fait, pour le coup, là, pour moi, c'est une table, quoi. Voilà, vous avez produit. Enfin, je le lis comme ça. C'est-à-dire que le tableau fait table dans la forme du savoir qui est utilisé. Rapidement, est-ce que je parle de QMS ? Ouais, de ce que ça m'a évoqué. Oui, on l'appelle QMS, quoi, matière signe. C'est l'idée d'une énigme ou d'un algorithme qui pose question. Oui, je vous montre Cluedo parce que ça me fait penser à ça en fait. QMS, voilà, c'est un truc en trois termes, c'est comme le colonel Moutarde avec le chandelier dans le grand salon. Et c'est une sorte de mystère dont finalement on n'a pas la clé, ou alors la clé c'est cette fameuse table qui manque. Et du coup, j'ai décidé d'investir quand même, je parle du sujet de l'article, la question du blob et la question des matières inclassables. Voilà. Donc il est là le lien, en fait. C'est que d'un côté, on a l'idée de produire des formes de savoir, on a la table qui est éventuellement un élément de clarification, et puis on a des éléments qui sont inclassables parce que leur forme nous résiste, et du coup, il y a cette idée du blob comme matière insaisissable. Donc là, je vous montre un extrait du film du même nom, mais si vous lisez l'article, si ça vous intéresse, vous verrez que je suis allée piocher des exemples en BD, en cinéma, en design culinaire, en architecture. Donc encore une fois, en fait, je ne fais que des encyclopédies. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais ça fait un an qu'à chaque fois que j'ai un projet de recherche, ça devient une forme d'encyclopédie, ou une table, ou les deux. Voilà. Donc j'essaye d'exposer ça dans cette petite présentation. Donc il y a eu ce genre de formes, voilà, qui sont apparues. En fait, je pense que le texte lui-même est une sorte de blob, en fait. Son statut lui-même n'est pas clair, et c'est peut-être là qu'il est intéressant. Voilà. L'idée que je défends aussi dans le texte, c'est que le blob, donc ce qui est en forme, s'oppose aux choses qui ont une forme, et que la forme identifiée, c'est-à-dire les choses qui ont une forme claire, lisible, la forme identifiée, c'est un truc de dominant, en gros, quoi. Voilà. Et quand vous êtes dominé ou opprimé ou minoritaire dans une société, les formes que vous produisez sont non identifiables, donc informes. Et donc, c'est un paradoxe pour quelqu'un qui est chercheur d'écrire un texte sur le blob, parce que mon écriture est le contraire de l'informe. Elle est extrêmement domptée. J'utilise des biblios, j'utilise des notes de bas de page, j'utilise un vocabulaire qui est le contraire de l'informe. Voilà. Donc après, j'ai essayé, déjà en participant à l'expo, de me mettre un peu en danger par rapport à ça. Et puis après, il y a des titres, les titres des parties sont blobisés, donc ils font blip blup et blip blob tout au long du texte. Et puis je crois que dans la mise en page, voilà, il y a eu un effort aussi de rendre le contenu plus blobesque, voilà, de blobiser l'écriture. Voilà. Ça, c'était l'idée de vous montrer le texte, mais vous apprendrez ce soir que Google Drive ne charge pas dans les iframes, donc on ne verra pas le texte. Mais voilà. J'ai travaillé dans Google Drive, ce qui est d'ailleurs absurde parce que c'est une forme assez verrouillée. Il y a eu production de dessins aussi, voilà, là aussi de dire on produit des images. Alors ça, c'était un truc aussi qu'on avait abordé avec Irène Duniac quand on a écrit le bouquin sur cinéma et design qui est sorti là à la rentrée. L'idée de se dire qu'on arrête de faire une séparation stricte entre texte et image, et que peut-être un enjeu de la recherche, c'est de produire de nouvelles images, des images qui se substituent à des illustrations traditionnelles. Donc de produire ces blobs, ou de produire des images qui fassent signe. Donc là, on est en plein dans quoi matière signe. Bon, et puis, malgré tout, ça reste un texte de recherche, donc ça s'inscrit aussi dans les activités de mon labo, et là, je suis obligée de dire que le mou, c'est pas mon idée, quoi. Il y a aussi plein de gens dans mon laboratoire qui travaillent là-dessus et qui s'y intéressent. Ah oui, et alors après j'ai fait un autre blob, parce que non content d'avoir fait un blob textuel, mi-texte de recherche, mi-je sais pas quoi, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire une autre encyclopédie en ligne. Donc tout à l'heure je vous ai montré l'encyclopédie des mésencyclopédistes, qui est une encyclopédie absurde, qui n'a quasiment pas de référent. Et là je me suis dit tiens, je vais faire une table, mais une table virtuelle, une table à projeter, donc j'ai fait ce site. Alors quand je dis je fais ce site, c'est j'ai réutiliser un code existant, c'est un code qui existait pour la table des éléments, voilà, vraiment la table classique des éléments, enfin je sais plus comment on appelle ça avec les numéros, la table des éléments chimiques, périodique, merci. Donc j'ai réutilisé ce truc là en me disant je vais faire une table absurde d'éléments mous, et j'ai utilisé ce code existant. Donc là aussi une production de web qui est toujours un peu secondaire, quoi. C'est-à-dire que je suis pas nécessairement auteur du contenu. Et en fait, c'est pas fini. C'est-à-dire que c'est une boîte vide pour le moment. C'est-à-dire qu'on peut pas cliquer sur les trucs. On est juste face à des catégories derrière lesquelles il y a rien. Ou alors il y a des énigmes, des private jokes, des espèces de CF, hein, des citations vers des trucs qui pointent vers rien. Donc aussi, c'est un élément qui vient s'ajouter au texte. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand on code, il y a sûrement des gens dans la salle qui codent. Moi, je code, je suis un peu codeur du dimanche, quoi. Enfin, j'ai pas un niveau de code exceptionnel, donc je réutilise beaucoup du code HTML existant. Et en anglais, on appelle ça un snippet, voilà, un morceau de code qui existe déjà et qu'on remet ailleurs. Et donc ça aussi, ça me paraît être une pratique de recherche à cet égard, hein, pratiquer un snippet. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, parce qu'il y a une œuvre justement dans cette expo qui s'appelle Snippet, que j'ai contribué à faire amener d'ailleurs, qui est une œuvre de Baptiste Charneux. Donc c'est l'idée d'avoir des petits éléments qui se connectent à d'autres. Ça, je ne vais pas en parler. Donc vous irez voir. C'est un truc à la Documenta, c'est intéressant, mais j'ai pas envie. Voilà. Ouais, donc je vais conclure là-dessus, en espérant que j'ai pas fait trop long. Ma conclusion, c'est l'idée de matérialiser le savoir. Enfin, moi, c'est voilà, je donne ma lecture de cette expo. Je sais pas du tout comment ça fera écho avec les autres présentations. L'idée, c'est de matérialiser le savoir. Mais en même temps, étant chercheur, on finit toujours par matérialiser des choses qui nous échappent. Bon, ça, c'est un peu cliché. Mais j'aime bien l'idée, justement, que les structures de savoir nous préexistent ou sont indépendantes de nous. Et du coup, on peut travailler sur ces structures. Voilà. Plutôt, en gros, que de courir après un savoir qu'on n'arrive jamais à formaliser, plutôt s'intéresser aux formes de la recherche. Donc, je vous montre un autre truc que j'ai écrit qui peut faire écho. Pas le sujet du tout, quoique c'était un texte sur les chaises chez Proust, donc c'est complémentaire de la table. Mais Marisol Godard, qui est illustratrice, avait produit ces images par rapport à mes textes. Voilà, et ça, j'avais trouvé ça intéressant, l'idée que le sens d'un texte ou le sens d'une recherche peut se retrouver dans des choses hyper schématiques ou dans des dispositifs. Voilà. C'est-à-dire rassembler 4 personnes et décider qu'on fait une encyclopédie sur le web. Rassembler 3 personnes, décider qu'on fait une grande table pour faire une expo. Voilà. Des espèces de dispositifs de reproduction du savoir. Ouais, ça c'est aussi mon projet de recherche, c'est encore un autre site voilà, qui fait encyclopédie, mais peut-être on peut en parler après, si jamais vous aviez des questions. Et du coup, voilà un peu la table au centre de mes préoccupations de recherche, mais on voit que cette idée du mou et de la table, enfin voilà, les deux sont jamais loin, voilà. L'idée d'un mou incontrôlable, non classifiable, dont il est question dans le texte, et puis qu'on retrouve un peu partout. Il y a plein de choses, il y a plein d'objets là dans cette expo qui sont mous, coulants, dégoulinants, qui posent la question de leur classification. Et puis l'idée de la table comme quelque chose de beaucoup plus structuré qui peut permettre de classifier les savoirs. Voilà. Ça, c'est de la pub. mais ça rejoint le mou, voilà, parce qu'il y a un workshop que je co-organise là lundi à l'université. Bon, vous êtes bienvenus pour aller voir ce qui s'y passe ce lundi. On va travailler sur des formes de sextoys fabriquées avec le silicone. Voilà. Et moi, je le vois en direct de connexion avec tout ce travail sur quoi matière signe. Quoi. On retourne dans des formes molles, des formes non identifiables, des choses dont il est question dans l'article. Voilà. Idée, c'est un des dessins que j'avais fait, qui n'a pas été retenu d'ailleurs, mais qui communique assez bien avec ce qui se passe la semaine prochaine. Un mot pour conclure. En gros, je pense que j'ai une petite annonce. J'ai envie de travailler sur des tables, des formes de tables comme espace de recherche. Donc d'inviter des gens, peut-être vous, à utiliser le fait de s'asseoir autour d'une table ou devant une table pour produire des mécanismes de recherche, comme on l'a fait dans Méta 4, comme Brice a pu le faire avec la table dans l'exposition à l'espace Croix-Baragnon. Enfin voilà, de reproduire en fait ces dispositifs-là pour produire de la recherche. Et là où ça concerne directement l'exposition dans laquelle on est, c'est qu'il n'y a pas eu de table pour cette expo, mais finalement elle existe, voilà, au fond. C'est que on n'a pas besoin de table pour qu'il y ait table, voilà. Même si vous n'avez pas construit cette fameuse table, d'une certaine manière, elle est là. Voilà. Bon. Je vous livre ça. Après, je ne sais pas si ça fait sens et si on peut en discuter. Mais c'est le mot de la fin. Faisons des tables. Voilà.